va nous servir de base. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, texte bien connu. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme ou notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Et puis on va dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 19. Deuxième livre de Samuel, chapitre 19, verset 31. Et on va s'arrêter sur un personnage qui va nous servir de référence, Barzillaï. De Samuel, chapitre 19, verset 31. Barzillaï le Galaadite descendit de Roguelim et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Barzillaï était très vieux, âgé de 80 ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme fort riche. Le roi dit à Barzillaï, « Viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. » Et Barzillaï répondit au roi, « Combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem ? Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais ? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit ? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses ? Et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge de mon seigneur le roi ? Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi. Pourquoi d'ailleurs le roi m'accorderait-il ce bienfait ? Que ton serviteur s'en retourne et que je meure dans ma ville, près du sépulcre de mon père et de ma mère. Mais voici ton serviteur Kimham qui passera avec le roi, mon seigneur. Fais pour lui ce que tu trouveras bon. Le roi dit que Kimham passe avec moi et je ferai pour lui ce qui te plaira. Tout ce que tu désiras de moi, je te l'accorderai. Quand tout le peuple eut passé le Jourdain, et que le roi lui aussi passait, le roi baisa Barzillaï et le bénit. Et Barzillaï retourna dans sa demeure. Le roi se dirigea vers Gilgal, et Kimham l'accompagna. Amen. Replaçons cette histoire dans son contexte. David, le roi David, vient de vivre une crise extrêmement difficile suite à un coup d'État orchestré par Absalom, son fils. Vous connaissez cette histoire et David sera obligé de fuir Jérusalem. Et il va y avoir une guerre civile entre les partisans de David et ceux qui seront du côté d'Absalom. Une guerre civile, ça déchire un pays. Même quand elle est finie, ça laisse de longues traces. Donc David vit des choses extrêmement difficiles. Et puis, dans cette période, c'est là où il va voir les vrais amis et les faux amis. Et certaines personnes qui étaient ses amis vont le trahir. On pense à un homme comme Achitophel, où David a carrément écrit un psaume sur lui, psaume 41, et qui bien sûr prophétise en même temps sur Juda. David, dans ce contexte-là, dira « Mais que mes ennemis sont nombreux !» Il ne pensait pas en avoir tant. Et puis de l'autre côté, il y a dans ces moments difficiles, certains vont se montrer comme de véritables amis. On pense à un homme qui était un mercenaire, Ittaï de Gath, d'origine philistine, et là, il va montrer son soutien à David. Et puis, dans ce contexte-là, il y a un homme qui va aussi manifester du soutien à David, c'est ce Barzillaï. Lorsque David fuyait, il était fatigué. Et à un moment donné, Barzillaï est arrivé avec beaucoup de matériel, de la nourriture en abondance, du matériel, des lits pour se reposer, un vrai campement. Et ça va être bien sûr un baume sur le cœur pour David. Ils vont pouvoir manger, se reposer. C'était une manière de se positionner pour Barzillai. Et Barzillai a fait quelque chose de remarquable pour David. Le texte que nous venons de lire se situe après la guerre civile. Absalom a été vaincu, il est mort. Et le peuple, voyant cette situation, dit mais il faut faire revenir David. Et on va dire à David, reviens, redeviens notre roi. Est-ce que ça va se passer? Et David est sur le chemin du retour. Il revient à Jérusalem, il passe le Jourdain. Et il dit à Barzillai, viens, accompagne-moi, suis-moi à Jérusalem. Et Barzillai va décliner l'invitation de David. Sur un plan humain, nous comprenons qu'il décline cette invitation. Il est âgé, il y a la fatigue qui est là. Mais je voudrais considérer les arguments de Barzillai sur un plan spirituel. Et sur un plan spirituel, ils ne tiennent pas. Nous avons un Seigneur, Jésus-Christ, type de David, d'accord ? Et il est celui qui veut nous emmener dans la Jérusalem céleste. Il veut nous emmener dans la royauté. Il veut nous amener à passer le Jourdain. Et il veut nous emmener loin, plus loin dans les choses de Dieu. Et nous, bien sûr, on ne peut pas, sur un plan spirituel, sortir les arguments de Barzillai. C'est ce que l'on va considérer ce matin. Je le dis bien, on n'échappe pas au vieillissement sur le plan cérébral, sur le plan physique. Mais nous avons lu un texte qui nous parle d'être rajeuni, d'être renouvelé intérieurement. Il n'y en a qu'un qui a dit « Amen » quand j'ai lu le texte. C'est une personne qui a plutôt 70 ans, je ne veux pas... Mais je crois qu'il y a une nécessité qui est là d'être renouvelé intérieurement. Et je dis sur un plan spirituel, faisons attention à ne pas vieillir prématurément. Physiquement, j'échappe pas. J'ai beau essayer de camoufler un petit peu, on n'y échappe pas. Mais sur le plan spirituel, la Bible parle de promesses de renouvellement intérieur. La Bible nous parle de cette manière-là. Elle nous parle de vieillards qui auront des songes, des visions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont pouvoir encore vivre une vie abondante. Et je peux vivre cela et j'ai besoin de vivre cela. Barzillai, ça signifie être fait de fer. On peut avoir été fait de fer, mais un jour on peut rouiller. Et il nous faut veiller là-dessus. On n'échappe pas aux fatigues. Mais le mot fatigué, c'est un mot qui est gênant parce que c'est un mot fourre-tout. Et quand on dit je suis fatigué, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais il peut y avoir beaucoup de choses. Et je crois qu'attention, quand on est fatigué de suivre le Seigneur, de marcher à sa suite et qu'on commence à mettre de la distance, il y a danger. Je voudrais considérer les déclarations et souligner quelques symptômes, quelques signes de vieillesse prématurée. D'abord, quand je mets en avant mon âge, ou mes années pour me désengager. Barzillai va répondre à David, combien d'années vivrai-je encore si je monte avec le roi à Jérusalem? Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Sur le plan humain, on le comprend. Mais je raisonne sur un plan spirituel. Je me rappelle, j'étais jeune converti, et il y a un chrétien un jour qui parlait comme ça dans la cour de l'église où nous étions. Il avait 70 ans à peu près. Et il disait, hop, moi, ça fait 30 ans que je suis dans la Pentecôte. Ça voulait dire, j'ai plus rien à apprendre, j'ai tout vu, j'ai tout connu. Et je me rappelle avec mon regard de jeune converti, un peu taliban évangélique, vous voyez là, je l'ai regardé, je l'ai fusillé. Parce que j'acceptais pas ça et j'étais un petit peu intégriste dans ma manière, mais je supportais pas ça et je crois que quelque part, j'ai pas envie de le supporter aujourd'hui. C'est dangereux quand on parle comme ça. Et qu'on pense qu'on n'a plus rien à apprendre. Ça, c'est le déclin. Et ça, c'est dangereux. Et quand même j'aurai 25 ans, 40 ans, 50 ans, et que j'ai encore des choses à apprendre. Et je ne dois pas raisonner. Parfois, vous avez des chrétiens qui ont 3 ans de conversion et qui parlent comme ça. Et qui parlent comme des vieux. Barzillai a dit, je ne monterai pas, j'ai 80 ans. Je ne sais pas vous, mais ça doit vous rappeler un autre vieillard de la Bible. quelqu'un qui voulait cette montagne d'Hébron. Et il la voulait. Il s'appelle Caleb. Et dire à lui, il avait encore plus. J'ai 85 ans. Mais il rajoute quelque chose. Mais je suis encore aussi vigoureux que lorsque j'en avais 40. Il y en a un qui parle de ses années pour dire je suis pas, je me désengage. Et l'autre, il dit j'ai 85 ans, mais je suis encore bon. Je suis pas bon pour la casse. Je suis encore là s'il y a besoin. Et il va se positionner. Et là aussi, je le dis, parfois on pourra en avoir 40 et se porter comme si on avait 85. C'est l'inverse qui compte. On peut en avoir 85, mais à l'intérieur, on peut en avoir 40. Il dira, combien d'années vivrai-je encore ? Barzéi, il regardait plus trop devant. Je crois que c'est toujours important de regarder devant, même quand le poids des années est là. C'est toujours, alors c'est sûr qu'il y a un certain moment où il y en a plus derrière que devant. Mais c'est toujours important de regarder devant. Vous savez, il y a une période qu'on appelle la crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine, vous savez, on va dire comme ça. Quand on est enfant, on vit dans le présent. Quand on est jeune, c'est plus tard, demain, quand je serai marié, quand j'aurai fait ceci. Et quand on est vieux, des fois, c'est hier, autrefois, de mon temps. Donc on a la... Mais il y a un passage où justement, quand je passe de la jeunesse à la vieillesse, c'est quand on arrive à 40 ans, c'est quoi ? C'est quand je serai, puis à un moment donné, à 40 ans, on se rend compte qu'il y a un passage là. Finalement, il faut arrêter d'être un petit peu dans ses rêves, dans ses projets, puis prendre conscience qu'il y en a peut-être derrière et que... Et là, ça fait la crise des fois de quarantaine ou des fois même, ça pose certains problèmes. Ce passage est un petit peu difficile et il faut trouver un certain équilibre. Un certain équilibre, y en a derrière. J'en ai vécu, mais il y en a aussi devant. Il faut trouver un petit peu bien se réguler là-dessus. Mais je voudrais dire, il y a du terrain à conquérir. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, c'est quelqu'un qui regarde devant. Quand bien même il y en aurait beaucoup. Et je crois que c'est vraiment important. Et quand bien même l'horizon, je ne le vois pas trop, je regarde vers l'éternité. Mais je regarde devant. Mais tant que mon Dieu me veut sur place, tant qu'il me veut ici, il y a des choses à vivre avec lui. Il y a de quoi le servir. Peut-être que je ne peux pas en faire autant que j'en ai fait avant. Il y a des choses que je ne pourrais pas faire, c'est vrai. Mais mon Dieu, il a encore prévu des choses pour moi. Et moi, j'aime quand je vois des personnes qui vieillissent. Elles savent des fois changer leur manière de servir, mais elles sont toujours dans cet état d'esprit-là, de se rendre disponible. Le deuxième symptôme que je relève, c'est quand je ne discerne plus ce qui est bon et ce qui est mauvais. Barzillai va mettre en avant le fait que ses papilles n'étaient plus en état. Goûterais-je ce qui est bon et ce qui est mauvais, il ne devait plus faire la différence entre une bonne nourriture et une moins bonne, entre un bon plat de chez nous et un truc fast-food. Il ne faisait plus trop la différence. Et c'est vrai qu'avec l'âge, des fois, certains sens, on les perd. Mais sur un plan spirituel, quand quelqu'un perd son discernement et ne sait plus faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal, là, il y a souci. Là, il y a grand danger. Et ça, on doit... La difficulté à discerner ce qui est bien et mal peut caractériser des fois la jeunesse, le jeune converti. Malheureusement, des fois, vous avez des chrétiens, toute leur vie, ils ont ce problème. Et c'est dangereux des fois quand des personnes ont discerné ce qui est bien, ce qui est mal, et à un moment donné, ils perdent dans ce discernement-là. Et à un moment donné, ça devient dangereux, parce que quand je ne sais pas discerner ce qui est bien et ce qui est mal, je risque de me faire du mal. Je pense à cette histoire où, à un moment donné, Élie a dit, allez, soir, on fait le potage pour tout le monde. On a besoin de quelque chose pour la soupe. Alors, les fils des prophètes, ils sont allés cueillir. Il y en a qui est allé, et il a trouvé des belles coloquintes. Il aurait peut-être pu trouver aussi des champignons rouges avec des points blancs, vous voyez. Ouh, ils sont beaux, ceux-là. Et il les a pris, on va faire une belle soupe. Les a mis dedans. La mort est dans le pot, vous connaissez l'histoire. Mais on se dit, mais voilà, ça lui a plu, c'était, on met dedans et... Mais sur un plan spirituel, vous avez des chrétiens qui fonctionnent de cette manière-là. Et on avale tout, on gobe tout, et il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de discernement. Il y a des choses qui sont dangereuses, et vous savez, le plus délicat, c'est là où il y a beaucoup de vrai. que le faux passe. Des fois, ça paraît très bon, mais il y a un peu de mauvais. C'est ça qui est des fois dangereux. Et aujourd'hui, on a besoin d'hommes et de femmes, de Dieu, qui aient du discernement et qui n'avalent pas tout et n'importe quoi. Dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, il est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce texte est d'une importance capitale, déjà par son placement dans l'Épître aux Romains. Il nous fait passer d'un exposé théorique des 11 premiers chapitres, il nous fait passer à des choses très pratiques. Et il est question de discernement, et le discernement de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Et je me permets de souligner, et puis dans ce qui est bien, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable, ce qui est parfait. C'est-à-dire que dans ce qui est bien, il y a du meilleur. Et j'irai même dans l'autre sens. Dans ce qui est mal, il y a des fois le pire. Et il y a des fois un moindre mal. Il y a des nuances. Mais déjà, restons sur le bien et le mal. Et rappelons-nous que ça dépend de plusieurs facteurs. Mais le premier, pour moi, c'est le renouvellement intérieur. On a besoin d'être renouvelé dans notre cœur, dans notre manière de réfléchir. On a tous un portable. Et les plus accros du portable, ils n'oublient jamais de recharger leur téléphone. Premier réflexe, dès qu'ils arrivent quelque part, ils cherchent les deux petits trous, hop, hein, pour mettre leur prise. Hein, parce qu'il y a cette peur. Il ne faut surtout pas que le téléphone soit en panne de batterie. Ben, je dirais, mon frère, ma soeur, soyons comme ça sur le plan spirituel. Refusons la panne de batterie. Mais constamment, on a besoin d'être renouvelé intérieurement. Et pour ça, ce n'est pas automatique. Hein. Mais on a besoin de se présenter devant le Seigneur, dire « Seigneur, parle-moi, éclaire-moi. J'ai besoin d'être renouvelé dans mon intelligence, dans mes forces, dans mes dispositions de cœur, dans ma manière de réfléchir, de regarder la chose autrement. C'est vraiment important. » Alors bien sûr, ça nous amène sur bien sûr, c'est la parole de Dieu. Hein. Quelqu'un qui veut être renouvelé et qui ne lit pas la parole de Dieu, c'est une incohérence complète. Mais non seulement de la lire, mais de la méditer et de la mettre en pratique, parce que c'est elle qui va établir notre échelle de valeur. Le bien et le mal, ce n'est pas l'opinion publique qui le fixe, mais c'est la parole de Dieu. C'est elle qui va m'aider. Alors, ce n'est pas toujours facile, mais c'est elle qui va établir mon échelle de valeur. Mais s'il n'y a pas la parole de Dieu, eh ben je vais penser comme les gens raisonnent. Et vous avez vu comment les gens raisonnent, ils pensent avoir des idées toutes nouvelles, mais ils ne font que répéter ce qu'on leur a glissé tranquillement par toutes sortes de médias. Et je dirais aussi le refus d'être une marionnette dans ce monde. Mais, alors on est forcément influencé, mais quand même, on veut avoir un filtre. Il y a des choses qui sont glissées, qui passent comme ça. Il y a toutes sortes de matraquages, c'est balancé d'un côté, de l'autre, parler. Et on refuse à un moment donné. Ça veut dire de bien gérer son exposition à cette influence. Dans le texte que nous avons lu, il est aussi question de consécration à Dieu. Je vous exhorte par les compassions à vous offrir comme un sacrifice vivant, pas un sacrifice sanglant. Dieu ne nous demande pas de mourir pour lui, mais de vivre pour lui, de nous donner à lui. De consacrer notre corps, notre vie tout entière. Et quand on se donne, c'est là où le renouvellement peut se faire. Et puis, je vous exhorte par les compassions de Dieu. Il y a la nécessité de s'affermir dans la grâce. Et ça, j'en suis convaincu combien c'est important. Parce que l'évangile, la parole de Dieu, sans la grâce, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et vraiment, la grâce, elle m'aide à équilibrer un petit peu tout. Je crois que c'est important. Mais on touche un sujet difficile, là, le discernement de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Des fois même, on ne sera pas toujours d'accord, hein, selon notre manière de voir, et puis des fois, on ne voit pas tout. Mais c'est important, et sans les choses que je viens de citer là, je vais manquer de discernement. Et je ne saurais plus discerner ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Et ça, c'est très important. Le troisième symptôme, c'est quand Barzillai dit, mais est-ce que je suis capable d'entendre la voix des chanteurs et des chanteuses? Alors, je ne veux pas parler de musique et de chant, ce n'est pas mon propos. Mais je voudrais dire comme ça, quand je n'entends plus la voix du Saint-Esprit. Il est essentiel d'entendre la voix de l'Esprit dans notre cœur. Cette voix qu'on entend de temps en temps, alors je suis très mal à l'aise avec les gens qui l'entendent tous les jours. Mais c'est quand même dangereux quand je ne l'entends plus. Et j'ai besoin d'entendre cette voix de l'Esprit. Des fois, elle dit rien, mais elle dit « je suis là ». Des fois, ça fait tellement de bien. Mais combien j'ai besoin de l'entendre, ce bruit-là. Et vous vous rappelez, Élie dira à Acab, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Mais il y avait un beau soleil bleu, donc ce n'est pas les orages. Le bruit, il était d'ordre spirituel. Mais il a entendu quelque chose dans son cœur, il faut dire que Dieu lui avait dit avant qu'il allait le faire. Mais il entendait un bruit, hein, il sentait que ça venait. Et quelque chose qui laissait présager la pluie. Et on a besoin d'entendre cette voix-là. Je sais très bien qu'on ne peut pas l'entendre tout le temps. Et Dieu il équilibre. Vous savez, il y a le mot, la parole en grec, il y a deux mots. Le mot logos et le mot rhéma. On a du mal à faire la distinction entre les deux. L'une des distinctions qui a été proposée, c'est que le rhéma serait une parole un peu plus personnelle. C'est vrai que de temps en temps, on écoute le logos, ça nous cadre dans notre manière de comprendre, mais de temps en temps, on a besoin d'entendre la voix de Dieu, la parole d'une manière plus personnelle. On a besoin d'entendre cette voix qui dit « Je suis là, j'ai entendu ta prière ». Et cette voix, elle ne vient pas que par les dons spirituels. Elle peut venir dans une prédication. Récemment, il y a eu le congrès des pasteurs et j'ai fait une prière avant de partir. J'ai fait une prière, je ne vous dirai pas laquelle, mais j'ai fait une prière dans mon cœur, je dis « Seigneur, il faut que tu me répondes ». Et pendant le culte, l'un des cultes au congrès, dans la prédication, il y avait la réponse de Dieu. Et puis derrière, il y a un don spirituel. La réponse, c'est une réponse que je pourrais faire dans beaucoup de conseils. Mais quand ça vient de Dieu, c'est le moment. Et la réponse était, j'ai entendu ta prière, mais ce que je te demande, cultive ton amitié avec moi. Tiens-toi dans ma présence, le reste je m'en charge. Ouais, ça me ramenait. Et c'est souvent une réponse que Dieu nous fait. Hein. Mais cette réponse, ce genre de conseil, je l'ai souvent donné. Mais quand ça vient de Dieu, ça me rappelle, un jour, je me rappelle, il y a quelques années, il y avait un jeune qui était en grave dépression. J'étais allé le voir au Vinachi, à Bron, et à Lyon, près de Lyon, et il était vraiment en dépression complète. Et il m'avait expliqué son parcours, c'était parti du travail, où il fuyait le travail, et c'était à un moment donné où il commençait à aller un petit peu mieux, j'ai dit, il faut que tu retournes au travail. Je lui ai dit, cette parole, ça faisait rien. Et puis nous, on est parti sur Nîmes, et un an ou deux ans après, je le retrouve en pleine forme, complètement guéri. Et je lui dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, le Seigneur m'a parlé. Je lui dis, t'as dit quoi? Il m'a dit, retourne au travail. Mais quelque part, ça m'a fait comprendre que des fois, on peut même avoir la parole juste. Il y a le moment, il y a le temps. Quand c'est Dieu qui dit, c'est pas pareil. Hein. Donc, vous voyez, ça m'a interpellé, ça m'a marqué cette expérience. Parce qu'en plus, il ne se rappelait pas que je lui avais dit. Mais pour moi, j'étais. Comme quoi, c'est. Dieu sait le faire. En tous les cas, on a besoin d'entendre la voix de Dieu. D'entendre cette voix qui dit, je suis là. J'ai entendu ta prière. Dieu ne nous dit pas toujours ce qu'il va faire. Mais cette voix qui. Hein, des fois, qui nous parle comme à des enfants. Je te tiens. T'inquiète pas. Le quatrième symptôme. C'est quand on se contente d'un peu. Barzillai va dire, j'irai un peu. J'irai. Il va proposer d'accompagner David un petit peu au-delà du Jourdain. Il fait un effort, mais pour aller un petit peu plus loin. Sur le plan spirituel, notre Dieu ne nous propose pas d'aller un peu. Il nous propose d'aller à fond. Il nous propose d'aller jusqu'au bout. Il nous propose d'entrer dans tout ce qu'il a mis à notre disposition. Hein, quand on regarde, quand Jésus parle sur le terrain de la foi, je suis toujours surpris que les limites, c'est moi qui les mets. Jésus dit là, la foi, elle peut déplacer les montagnes, mais moi, ma tête, ma foi, elle ne dit pas ça. Hein. voyez, mais c'est nous qui les mettons quelque part, ça m'interpelle. Et je crois que nous, on ne veut pas aller un peu, on veut aller loin, on veut aller jusqu'au bout. Cette parole, par rapport au Jourdain, me rappelle d'autres passages de la Bible, notamment la transmission, le passage de relais entre Élie et Élisée. Vous rappelez, il y a un passage un petit peu bizarre où Élie essaye de se débarrasser d'Élisée. Et il traverse le Jourdain. Et chaque fois, Élie dit, allez, laisse-moi, retourne. Et Élisée ne le lâche pas. Et là, il ne va pas un petit peu derrière le Jourdain. Mais tant qu'il est avec lui, et on sait que quelque part, parce qu'il ira jusqu'au bout, il recevra l'onction et même la double onction par rapport à Élie. Vous savez, le diable, lui nous propose d'aller pas trop loin. Quand il ne peut pas nous empêcher, eh ben, il essaye de faire qu'on n'aille pas trop loin. Je pense à une autre parole. Vous vous rappelez le bras de fer entre Moïse et Pharaon? Pharaon, dur, hein? Et il va s'endurcir. Il nous a même dit qu'à un moment donné, c'est Dieu qui va l'endurcir. Mais à un moment donné, il va proposer quelques arrangements. Et dans les arrangements qu'il va proposer, il dira, « Bon, allez-y, seulement ne vous éloignez pas. N'allez pas trop loin. Que je vous ai sous l'œil. Que dès que j'ai besoin de vous, hop, je peux vous rattraper comme je veux. » Et ça, c'est ce que le diable nous propose, hein. Pas trop loin, oh là là, mais qu'est-ce que t'es toujours fourré là? Tu vis en chrétien, d'accord, quand t'es à l'église, mais quand t'es au boulot, si tu vis comme un chrétien, tu vas te faire rouler, tu seras toujours la bonne poire. Voilà comment il nous parle. C'est, bon, t'es sauvé, d'accord, mais t'as pas besoin du baptême dans le Saint-Esprit, tu restes tranquille. Ça, c'est, vous voyez, cette manière-là, va pas trop loin. Et ça, c'est dangereux. Parce que Dieu, il a prévu qu'on aille jusqu'au bout. Et on a besoin de toutes les ressources qu'il a mises à notre disposition. Si j'envisage la vie chrétienne en économisant mes efforts, en ne voulant pas aller trop loin, si je calcule, non, non, c'est pas bon. J'ai besoin d'aller jusqu'au bout. Sur le plan matériel, la Bible prêche et prône le contentement. Je le disais récemment dans une visite, la Bible dit « Contentez-vous de ce que vous avez ». Mais dans le domaine spirituel, c'est la soif. On ne doit pas être satisfait, on ne peut pas être satisfait de ce qu'on vit aujourd'hui. On doit aspirer plus dans le domaine des dons de l'esprit. On doit aspirer à davantage dans le domaine de la vie de l'esprit. Et on doit le rechercher, on doit y aspirer. Et on ne peut pas se contenter de ce qu'on a. On a besoin d'aller plus loin. Et je crois que c'est... Retenons cette parole, j'irai un peu, pas pour moi. Le cinquième symptôme... C'est quand il a dit que je meurs dans ma ville. Alors on comprend là aussi la parole de Barzillai. Je ne sais pas vous, mais moi il y a toujours un décalage. Quand je pense à ma mort, et quand je vois la Bible parle de la mort de certaines personnes, la Bible élève ces gens qui sont morts martyrs. Quand on lit les héros de la foi, ils sont morts dans la foi, et certains de manière dramatique. On sait que sur les 12 apôtres, 11 sont morts martyrs. Mais vous, comme moi, souvent quand on pense à notre mort, on dit quoi? J'espère dormir dans mon fauteuil et me réveiller de l'autre. On pense un peu que je m'endorme dans ma nuit et sans souffrir. Voilà, là, il y a décalage un petit peu quand même. Alors, je suis comme vous, hein. Mais je crois que des fois, on raisonne un petit peu comme Barzillai, que je meurs dans ma ville. Il n'avait pas envie de mourir sur un champ de bataille. Il n'avait pas, vous voyez, ce raisonnement-là. Et quelque part, là, on est sur un terrain de retraite anticipée. Je crois qu'il y a quelque chose dans notre cœur. On est jusqu'au bout à l'œuvre de Dieu. On est jusqu'au bout au service de Dieu. Sur le plan professionnel, quand on arrive à 60, 65, bientôt 70, j'en sais rien... À un moment donné, on sera à la retraite, mais sur le plan spirituel, jusqu'au bout, on est au service de Dieu. Et je suis toujours impressionné par l'âge de certains dans la Bible. Alors c'est vrai qu'il y en a qui vivent plus longtemps à certains moments, mais quand même. Abraham, il n'est pas jeune hein, quand il l'a appelé. Moïse, 80 ans, alors il en vit 120, mais quand même. On voit dans la Bible des hommes qui sont âgés, Dieu les appelle à son service. Il appelle des très jeunes, mais il appelle aussi des âgés. Et je crois que récemment, là, j'entendais au sujet dans une église qui a connu une crise, une difficulté, une division. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, des fois, on cherche un... Comme l'église, finalement, qu'il y a une crise financièrement, elle ne peut plus soutenir un pasteur, donc on envoie un retraité. Et le pasteur responsable, donc l'un des pasteurs me disait, le retraité y est allé, il mettait son duvet dans l'église et dormait dans l'église, par terre. Et là, il a dépassé les 75 ans, le pasteur. Ça m'a impressionné. Et ce pasteur que j'admirais déjà, je l'admire encore plus. Et je trouve ça remarquable. Frères et sœurs, on ne démissionne pas dans les dons spirituels, dans le témoignage. Pas de place aux jeunes dans le témoignage. Hein. Ceux qui ont 50 ans de conversion, mais ils ont des choses à dire. Alors quand on vient de connaître le Seigneur, on a des choses aussi à dire. Mais on ne démissionne pas dans la louange. La louange des vieillards, elle fait du bien. On ne démissionne pas dans le combat de la prière. Dans l'intercession, dans le service de Dieu. Molière, il est mort sur scène. Les pasteurs sont morts en prêchant. Nous, on veut mourir au service. Et puis, un dernier symptôme. Il dira, prends mon serviteur. C'est quand on va envoyer les autres. Ça, c'est pas bon. Alors, bien sûr, là, on y voit une attitude bienveillante de Barzillai. Mais sur un plan spirituel, ce genre de réponse... « Seigneur, tu vois mon voisin, là, envoie quelqu'un pour lui témoigner. » Non, c'est à toi d'y aller. Des fois, on raisonne un petit peu comme ça. Alors, on le comprend. Quand Dieu a appelé Moïse, il a sorti toute la batterie d'arguments pour ne pas y aller. Et le dernier argument, c'est « Envoie Aaron, hein, il est plus grand que moi, il sait mieux parler que moi. » Je disais récemment, quand Josué est appelé, il avait envie de répondre « Caleb, il est bon, hein. Tu peux le prendre, Seigneur. » On aurait tendance des fois à répondre de cette manière-là. Mais la bonne réponse avec le Seigneur, c'est « me voici ». Il y en a des beaux « me voici » dans la Bible. Abraham, Moïse, Ésaïe. Je suis toujours impressionné par Ésaïe 6. Dieu lui dit « tu vas aller, voilà, j'ai besoin, les gens ne veulent pas entendre. Ça va être difficile, qui enverrai-je ? Me voici ». Ça m'impressionne toujours. C'est pas un appel à grand ministère, succès, c'est un appel à quelque chose de difficile. Et il dit, me voici. Et quand on regarde le parcours de ces prophètes de l'Ancien Testament, c'était, notre Dieu nous appelle à le suivre. Et on veut dire, me voici. Le jour où on a donné notre vie à Jésus-Christ, on a dit, Seigneur, me voici. Et de temps en temps, c'est bien de faire un rappel. Dire, Seigneur, me voici. Il y a quelques années de plus, il y a des choses que j'ai compris, il y a aussi des fois quelques petits écarts. Mais Seigneur, je veux te dire ce matin, me voici. On va prier le Seigneur. Et je voudrais lancer un double appel ce matin. Un appel à quelques-uns. Seigneur, me voici parce que je suis un pécheur et je veux te donner ma vie. Seigneur, tu as donné ta vie sur la croix pour moi. Et ce matin, je veux l'accepter. Me voici tel que je suis. Seigneur, il n'y a rien. Et j'ai vraiment besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu pardonnes mes péchés. J'ai besoin que tu me sauves. Ça, c'est un appel à la conversion. C'est un appel à donner sa vie à Jésus-Christ. Et je voudrais lancer ce premier appel ce matin. Et si quelques-uns veulent répondre à cet appel, je vous invite à vous mettre debout maintenant et dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Et puis, je crois qu'il y a forcément un appel qui concerne beaucoup d'entre nous. Seigneur, me voici pour aller plus loin. Pas pour aller un peu. Me voici, Seigneur, parce que je veux me consacrer davantage. Me voici, Seigneur, parce que je veux pas mal finir, mais je veux demeurer fidèle jusqu'au bout. Me voici, Seigneur, pour entrer dans ton programme et renoncer au mien. Me voici, Seigneur, et j'ai un peu perdu le goût, j'ai un peu perdu le zèle, j'ai un peu perdu l'ouïe. mais je veux que tu me renouvelles ce matin. Et si quelqu'un se sent concerné par cet appel, je vous invite à vous mettre debout et je vais prier pour vous. On va prier ensemble pour que le Seigneur vous aide et vous soutienne.